Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
La santé mentale reste le parent pauvre des politiques ivoiriennes de santé publique. La Côte d'Ivoire ne compte que 35 établissements conventionnels de prise en charge sur tout son territoire. Il faut croire qu'il y a une réelle souffrance psychologique qui n'est véritablement pas prise en charge. On entend tout le temps dire « si t'es trop fâché, Dieu faut te suicider ». Comment peut-on expliquer que ce sujet soit toujours tabou ? L'Afrique est le continent avec le plus fort taux de suicide et la Côte d'Ivoire est le troisième pays d'Afrique le plus touché. Quel est le profil des personnes qui se suicident ? Quelle est la cause de ces nombreux suicides ? Quel rôle le corps médical peut-il jouer en termes d'alerte et de prévention face à ce phénomène ? On en parle dans ce magazine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
La Journée mondiale de la prévention du suicide se tient tous les 10 septembre de chaque année et selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne se suicide toutes les 40 secondes. Le directeur général de Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest Afrique centrale, nouvelle entité installée opérationnelle en Côte d'Ivoire depuis 2019, Dr Issoufou Salahar, Médecins sans frontières apporte dans la prévention dans notre pays.
C'est de pouvoir travailler auprès du ministère de la Santé pour appuyer sa mission ou ses missions d'offrir des soins à la population. Avec le ministère de la Santé, nous réfléchissons ensemble sur les défis, sur l'apport que Médecins sans frontières pourrait apporter dans certains domaines, notamment la santé mentale.
Récemment, des associations professionnelles en santé mentale et des organisations de défense des droits de l'homme issues des pays de la sous-région ouest-africaine se sont réunies à Abidjan pour apporter des réponses opérationnelles aux différents défis liés à la santé mentale des populations ivoiriennes et africaine. Sur cette approche, on reste avec le directeur général de Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Dr Issoufou Salahar.
L'approche qu'on a aujourd'hui qui est un peu différente de l'approche classique de Médecins sans frontières, d'abord on est dans une logique de co-construction de projets, c'est-à-dire initialement des discussions sur des problèmes identifiés et voir ensemble quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter et pour combien de temps. Donc déjà au démarrage de l'activité ou des activités, on sait à peu près le temps que ça prendra pour qu'on puisse passer la main au ministère de la Santé, mais aussi à la communauté. Parce que tous les projets qu'on monte, s'il n'y a pas une adhésion ou une collaboration de la communauté, ces projets ne vont pas être pérennes. Donc, nous privilégions surtout la discussion, la concertation de la communauté dans la conduite des projets, mais aussi la compréhension du projet et savoir que ce projet, c'est pour eux et c'est ensemble qu'on peut avancer sous le leadership du ministère de la Santé.
Quel type d'opération, justement, le programme de gestion du littoral ouest-africain Waka effectue dans la zone ouest-africaine ? Docteur Gbane Mahama, directeur des opérations à Médecins sans frontières, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale.
Médecins sans frontières, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, dont le siège est basé ici à Abidjan, qui est le sixième centre opérationnel de Médecins sans frontières, est actuellement dans cinq pays. Dans ces cinq pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à RDC, au Niger, Côte d'Ivoire et puis d'autres pays, on est axé beaucoup actuellement sur la santé de la mère et de l'enfant, sur des problèmes, des thématiques de nutrition, sur des thématiques aussi de santé mentale, sur des thématiques aussi d'accès aux soins de santé spécialisés comme à Beauville avec la télémédecine, en partenariat bien sûr avec le ministère de la Santé, sur les thématiques de personnes qui sont des handicapés en RDC, sur des thématiques au Nigeria, même de la diphtérie, qui est une maladie aussi qui aujourd'hui dans beaucoup de pays, qui peut être traitée et qui peut être prévenue. Beaucoup d'urgences aussi, où nous intervenons. Nous avons intervenu au Pakistan sur des problèmes d'inondation. Et donc, voilà, c'est beaucoup de thématiques. Nous sommes ouverts, mais aussi tout ce qui est urgence en cas de catastrophe aussi. Médecins sans frontières, nous avons cette expertise aussi de pouvoir accompagner et de travailler en partenariat avec les ministères de la Santé, avec des organisations aussi locales, avec les communautés aussi. Pour nous, c'est déjà avoir ce projet en partenariat avec le ministère de la Santé, le programme national de santé mentale et des ONG locales. C'est apporter de nouvelles ressources humaines, travailler avec aussi les ressources du ministère, apporter aussi du financement, aussi pousser au maximum pour que ces patients aussi puissent être pris en charge. Et donc, travailler ensemble avec même des camps de prière, des professionnels de santé et tout le monde, c'est qu'on puisse pousser. Parce que n'oubliez pas que Côte d'Ivoire, on a deux hôpitaux psychiatriques. Et donc, si moi-même étant ivoirien, si on doit prendre tous les patients de Bondoukou chez moi jusqu'à l'ouest, jusqu'au nord, ces hôpitaux psychiatriques ne peuvent pas prendre en charge. Donc, ces personnes, ils vivent déjà dans une communauté, il faut les prendre en charge. Et nous, on pousse ensemble pour pouvoir avoir ce modèle, pour que ce modèle puisse être validé et que ces patients puissent être pris en charge et qu'on puisse accompagner aussi avec des médicaments. Et où c'est plus facile, c'est à la maison, dans les communautés. C'est là que nous poussons justement ensemble avec le programme national de santé mentale.
La santé mentale n'est pas intégrée dans le système de santé comme c'est le cas pour les autres problèmes de santé publique et ça crée des déficits en termes d'accès aux services de santé pour tous les patients et patientes. Le projet d'accès portant sur l'accès aux soins liés à la santé mentale et à l'épilepsie dans la région sanitaire du Béké a développé une approche particulière. Docteur Ismaël Adjaro, directeur médical adjoint pour Nutrition Santé.
Quand on a conseillé ce projet, on avait envie de partir pour une thématique santé mentale, mais surtout s'assurer que toute la chaîne de soins soit assurée. C'est-à-dire, même si on dépiste les gens depuis la communauté, on peut les rattacher à un centre de santé pour la prise en charge et à l'hôpital psychiatrique pour pouvoir gérer les cas graves qui nécessiteraient une hospitalisation et un internement. Donc, quand on regarde la pyramide sanitaire aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, la disponibilité des hôpitaux, on n'a pas beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Donc, soit on mettait le projet en place à Abidjan, soit c'était à Boaké. Mais également aussi, il y a une raison derrière. Vous savez que la Côte d'Ivoire a traité des troubles sécuritaires et politiques pendant longtemps, notamment celle la plus majeure de 2002, avec la rébellion qui avait son QG à Boaké. On sait qu'il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de violences physiques, de violences sexuelles, beaucoup de troubles qui sont des facteurs stresseurs pour les patients, pour les communautés. Et ça, c'est ce stress reste des années. Le stress fait que qu'on a fait, par exemple, au cours de l'Explo, des études exploratoires avant la mise en du projet, on s'est rendu compte que, par exemple, juste dans le Béké, on avait près de 113 camps de prière qui traitent la santé mentale. Donc, c'est que les besoins sont là. C'est pas que Boaké. Donc, le projet couvre toute la région du Béké. Vu cette histoire qui est très pesante, avec tout le stress que cela entraîne, tous les traumatismes que cela découle, on a jugé bon de mettre le projet en œuvre à Boaké et de penser dans les années à venir à son extension dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc, on pense à la région à l'ouest, par exemple, de la Côte d'Ivoire aussi, qui a été très affectée. On a commencé à Boaké pour pouvoir mettre en œuvre cette composante communautaire au niveau primaire et au niveau hôpital psychiatrique de Boaké. Donc, on verra dans les années à venir s'il faut reprendre le projet ou mettre en œuvre un projet similaire dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire où les besoins sont présents.
À Tibissou, à Transua, à Founbesso, à Kamalo, à Yopougon, pour ne citer que ces communes de la Côte d'Ivoire, des personnes présumées atteintes de troubles mentaux ont assassiné ou grièvement blessé d'autres personnes. Ces violences inquiètent. Que faire face à cette situation, docteur Ismaël Adjaro?
Il y a des personnes qui souffrent de maladies mentales qui peuvent être violentes. Et dans ce cas, d'enchaînement de malades, ce n'est pas la solution. Il y a des médicaments qui permettent de calmer ces malades-là. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une méconnaissance de ces mécanismes de soins. Elles sont laissées à elles-mêmes, elles sont dans la communauté et elles peuvent être violentes envers les autres. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup pour sensibiliser toute l'ensemble de la communauté sur ce qu'est maladie mentale. Les gens ont tendance, quand on dit maladie mentale, à penser aux démons, aux esprits, tout ce qui est mystique et préfèrent s'en éloigner. Il y a des cellules pour rapporter ces cas. Pour dire, on a dans tel village, dans telle communauté, on a des cas qui sont en train de se dérer, qui sont potentiellement violents. Le programme de santé mentale aujourd'hui en Côte d'Ivoire fait des efforts pour pouvoir travailler sur ces personnes-là qui errent avant que ça devienne des cas violents, avant que ça arrive dans une période de crise avec violence potentielle sur les autres usagers de la route ou sur les autres membres de la communauté. Donc, il y a des traitements pour ça. Donc, il faut que les gens soient au courant qu'il existe des mécanismes pour pouvoir informer, rapporter et envoyer vers les soins de santé ces personnes-là pour qu'on puisse leur donner des médicaments, prendre en place le protocole thérapeutique qu'il faut pour les calmer et pour pouvoir les guérir. En tout cas, les soigner, les stabiliser et leur donner encore leur place dans la société, leur restaurer leur dignité humaine.
Chargé des maladies non transmissibles, coordonnateur de l'équipe des urgences, point focal du programme de lutte et des abus à l'OMS à Abidjan, Dr Anne Ambroise, sur les troubles mentaux qui sont une réalité.
Les troubles mentaux sont bien répandus en Afrique. Ils touche environ 10% de la population, selon l'Organisation mondiale de la santé. On sait que la prévalence des pathologies mentales varie considérablement d'un pays à un autre. On sait également que parmi les troubles courants, on cite la dépression, la schizophrénie, l'anxiété, les problèmes liés à l'alcool, les problèmes liés aux drogues, les troubles liés au stress post-traumatique. Ils sont nombreux les facteurs qui contribuent à la prévalence des troubles mentaux en Afrique. On cite donc entre autres facteurs la pauvreté, les conflits armés, les migrations forcées, les inégalités socio-économiques, les problèmes de santé physique, les traumatismes, la stigmatisation, les obstacles d'accès aux services de santé mentale. On sait désormais que les troubles mentaux neurologiques liés à l'usage des substances psychoactives représentent un lourd fardeau et un fardeau croissant pour notre région africaine de l'OMS. On sait que le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui consomment de l'alcool constitue une source de préoccupation croissante pour notre région africaine de l'OMS. On sait que la quasi-totalité des personnes qui ont vécu dans une situation d'urgence de santé publique souffriront très très certainement de troubles psychiques qui dans la plupart des cas vont s'estomper avec le temps. On sait qu'une personne sur cinq ayant connu une guerre ou une autre situation de conflit au cours des 10 dernières années finira par souffrir de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de troubles bipolaires. On n'a pas encore fini de gérer toutes ces choses-là chez nous ici en Côte d'Ivoire avec les conflits que nous avons connus. Malheureusement, en face de cela, il y a une faiblesse des systèmes de santé mentale dans nos pays, dans la région africaine, qui constitue un contraste avec cette lourde charge épidémiologique.
Santé mentale en Afrique, quelle politique proposer? Le constat et les défis avec Dr Anne Ambroise.
On constate en effet un manque de politique et de plans stratégiques, notamment quand on parle de santé mentale pour les jeunes et les adolescents. L'Atlas de la santé mentale note que la moitié des pays membres de la région africaine disposent d'une législation dans le domaine de la santé mentale. La moitié seulement. Que font les autres pays de notre région? Et quand on parle de financement, alors c'est grave. La part moyenne de budget public qui est allouée à la santé mentale est moins d'un demi-dollar. Moins d'un demi-dollar par habitant. Là où on attend les pays pour au moins 2 dollars par habitant, c'est cela qui est recommandé pour les pays à faible revenu. Un autre défi, c'est la pénurie de ressources humaines qui se caractérise par des effectifs sanitaires qui sont en nombre suffisant, des effectifs qui sont souvent mal répartis sur le plan géographique, des effectifs qui sont dotés de compétences limitées ou des compétences qui laissent à désirer et dont les spécialistes sont aussi inégalement répartis. Eh bien, c'est tout cela qui justifie que l'OMS ait proposé un cadre régional, le cadre qui vise à renforcer la mise en œuvre du plan d'action globale pour la santé mentale 2013-2030 pour la région africaine. Ce cadre a pour but de promouvoir le bien-être mental des populations, de prévenir les troubles mentaux, de dispenser des soins, d'améliorer les chances de rétablissement, de promouvoir les droits fondamentaux, de réduire la mortalité, la morbidité et les handicaps chez les personnes atteintes de troubles mentaux.
Pour une avancée dans le cadre régional, Dr Anne Ambroise nous donne les objectifs fixés.
Les objectifs touchent essentiellement trois niveaux. Le renforcement du leadership et de la gouvernance et des financements, bien entendu. Deuxième niveau, en termes d'objectifs, l'élargissement de la couverture des services. Et puis l'augmentation des effectifs de personnes. Je crois que quand on aura touché ces trois éléments clés, on aura véritablement avancé. Et pour le faire, cela ne va pas sans des éléments que nous considérons comme des conditions sine qua non. La question de la couverture sanitaire universelle, la question des droits fondamentaux, une pratique qui s'appuie sur des bases factuelles, donc des données, pas seulement un indicateur qui est isolé dans le DIHS et qui donne des informations qu'on ne peut pas du tout exploiter pour faire du plaidoyer ou faire de la mobilisation de ressources. Une approche prenant en compte les étapes de la vie, une approche centrée sur la personne, une approche qui soit multisectorielle et multiprogramme. Et puis, bien entendu, l'autonomisation et la participation pleine et entière des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux ou neurologiques liés à l'abus de substances psychoactives. Ceci est important. Défi de la faiblesse de gouvernance, je le répète, du leadership. Défi de l'offre limitée de services de santé mentale. Défi des ressources humaines pour la santé qui sont insuffisantes et illégalement réparties. Défi de l'administration de médicaments de psychotropes inappropriés. Défi de la surveillance insuffisante de la santé mentale et neurologique. Défi de l'augmentation des déterminants sociaux de la santé mentale. Défi de la prévention, de la sensibilisation ainsi que de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Voilà pourquoi il nous paraît judicieux et pertinent d'intégrer la santé mentale avec tous ces éléments-là dans les soins primaires, dans les soins communautaires, mais aussi dans le contexte humanitaire qui est souvent le nôtre dans notre sous-région ouest africaine.
Le tableau dressé ici est alarmant, d'où la recherche de pistes de solutions. Docteur Goulin Kadja Adjoba Françoise, directeur de la santé communautaire et de la promotion de la santé et présidente du sous-groupe suivi et évaluation des représentants de la Commission de l'Union africaine.
La Côte d'Ivoire est un pays très fort et nous sommes engagés justement à faire de sorte que la prise en charge de la santé soit une réalité. Étant donné que la santé, selon la définition de l'OMS, intègre non seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être au niveau environnemental, tout ce qui est psychomental, et tout ce qui est social. Pour discuter des procédures et des dispositifs à mettre en place pour pouvoir intégrer la santé mentale dans nos interventions communautaires de tous les jours, de sorte à pouvoir travailler à lever les grands défis et les goulots d'étranglement qui font que la santé mentale n'est pas toujours prise en compte dans nos interventions.
Quel est l'état des lieux de la santé mentale aux soins communautaires? Goulin Kadja Adjoba.
Au niveau de la santé mentale, on a très peu de ressources qualifiées pour la prise en charge de la santé mentale de nos populations. On a aussi également très peu de paquets d'interventions intégrés dans nos activités de routine. Non seulement ça, mais il y a aussi dans la prise en compte des différents aspects des interventions dans nos stratégies et dans nos politiques. La santé mentale a très peu de place. Et donc pour nous, vu cet état des lieux, il est vraiment impératif et important d'unir nos efforts et de pouvoir réfléchir de façon approfondie sur comment on puisse intégrer ce secteur de la santé mentale dans nos interventions.
Le constat du directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire, professeur Kwa Médard, parle de la santé mentale, mais également des défis à relever.
Le premier constat, c'est que la santé mentale n'est pas suffisamment intégrée comme les autres problèmes de santé dans le système de santé. Et très souvent, les questions de santé mentale, les problèmes de santé mentale sont abordés en marge des systèmes de santé, des structures de santé de base, donc les centres de santé primaires et au niveau communautaire. Et donc, ça crée des déficits en termes d'accès aux services de santé pour tous les patients. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas accès aux services de santé de base. Ils sont généralement référés vers les structures spécialisées. Et ce gap de couverture de services fait qu'il y a beaucoup de structures parallèles qui offrent des services qui, malheureusement, qui menacent souvent la santé, la protection juridique des patients. En matière de services de santé mentale, les modèles qui marchent, les modèles à améliorer pour que ces modèles soient adaptés à nos contextes africains. L'éducation des populations les problèmes de santé mentale. Amener les populations à savoir que les problèmes de santé mentale sont d'abord des problèmes de santé, comme il existe des problèmes de santé physique qui sont des problèmes de santé. Ça, c'est la première chose. Communiquer, sensibiliser, éduquer les populations. De la même manière qu'on dit, lorsque vous faites la fièvre, allez dans le centre de santé le plus proche, dans le domaine de la santé mentale primaire, donc dans le système de santé publique. Lorsque quelqu'un va avoir des signes qui nous font penser qu'il souffre d'un problème de santé mentale, qu'il aille dans le centre de santé le plus proche et que la communauté soit engagée, la communauté soit sensibilisée pour que toutes les forces vives de la nation puissent permettre d'investir, d'engager des actions transformatrices pour que les populations accèdent aux services de santé mentale de base.
Santé pour tous. Santé pour tous.
Quel est le profil des personnes qui se suicident? Il est varié et peut s'agir aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, mais la plupart sont des personnes sans emploi. C'est difficile donc pour l'entourage d'une victime d'anticiper ce problème. Il serait donc important que la famille soit vraiment unie et attentive. Des professionnels de la santé mentale sont aussi interpellés. Il serait aussi important que ceci ait une communication, une approche parfaite avec les patients, les encourageant à reprendre goût à la vie et qu'il n'ait pas honte de parler de toutes les difficultés qu'il rencontre ou qu'il traverse. Il peut s'agir des difficultés sociales, des problèmes liés au financement, même à des disputes entre frères et sœurs ou entre enfants et parents. Merci. Fin de Santé pour tous.